Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Bonjour mes amis, bienvenue Place du Marché. On fait ensemble un marché d'étoiles ce matin, puisque lundi dernier, c'était la sortie officielle du guide Michelin 2020, la grande messe de la gastronomie en France, quoi qu'on en dise, et le palmarès des étoiles qui l'accompagne. On n'a pas été déçus, puisqu'au grand jeu du mercato des chefs étoilés, le Michelin décerne 3 étoiles, le Graal de tout cuisinier, à 3 établissements cette année, pas à des chefs, hein, je le rappelle, mais bien à des maisons, ça a son importance, on le verra au cours de l'émission. Et puis 2 étoiles à 11 maisons, dont 4 à Paris, ce qui est énorme, et 2 en Occitanie, on aime bien l'Occitanie nous, on le dit, Narbonne et Toulouse, et 49 nouvelles étoiles pour un total de plus de 500 tables étoilées en France. On parle bien d'étoiles Michelin et pas des étoiles nouvelles normes comme il y a sur l'hôtellerie, parce qu'il y a encore trop de confusion. Et justement, on va parler et décrypter ce palmarès avec une plume libre et une voix qui ne l'est pas moins, c'est Stéphane Méjanès. Bonjour Stéphane.
Bonjour Vincent.
Merci d'être venu aujourd'hui.
Merci de votre invitation.
Oh ben non. Je suis très content parce que c'est votre premier passage à Sud Radio.
Absolument, c'est un vrai bizutage, une première fois.
Ben c'est pas la dernière. Ça se passe mal en général, très mal. Hein. Vous allez voir, hein, c'est terrible. Alors Stéphane Méjanès, je disais une plume libre parce que vous êtes l'auteur de Tailler une plume. Tailler une plume, croquons le critique gastronomique, on va en dire un mot d'ailleurs. C'est un petit ouvrage, je dirais pas dont la plume a été trempée dans le vitriol, mais en tout cas dans une encre libre, parce que c'est un peu votre marque de fabrique. C'est important quand on écrit sur la gastronomie d'être libre.
C'est important en général d'être libre. C'est un peu le
ouais, en général, mais dans ce métier,
l'aspiration de tous les hommes. Moi, je ne vais pas prétendre être d'une liberté absolue. Il y a des contingences liées à ce métier. Il faut gagner sa vie. On rencontre beaucoup de gens. On fait beaucoup de tables. On rencontre des chefs. Je fais partie de cette catégorie de journalistes qui ne se prive pas. De faire de belles rencontres. Quand je rencontre des chefs qui m'intéressent, non seulement pour leur cuisine, mais pour leur personnalité, je passe du temps avec eux, je papote, on ne devient pas forcément amis, intimes.
Mais moi, ça ne me gêne pas d'être ami avec des chefs. Hein.
Moi, j'en ai quelques-uns qui sont vraiment, je peux le dire aujourd'hui,
et
des
après,
amis.
Après, on a du mal à les noter, du coup. Hein.
Mais non, je ne crois pas. Je pense que c'est comme avec ses vrais amis. Je pense qu'il n'y a pas meilleure critique qu'un ami.
Ah, oui.
C'est celui qui vous connaît le mieux.
Il y a des choses qu'on peut dire qu'on ne dirait pas à des gens qu'on ne connaît pas, c'est sûr.
Exactement. Donc, je pense qu'on peut rester vraiment libre, avoir une indépendance par rapport à ce qu'on goûte, par rapport à l'expérience qu'on fait. Même si on a de bonnes relations et même si on ne paye pas son addition. On pourra en reparler, mais c'est aussi un sujet.
Et c'est un autre sujet. Alors, on va avoir un autre journaliste et chroniqueur en ligne tout de suite, parce que au-dessus de cette fête du Michelin, de cette fête de la gastronomie française, parce qu'il faut bien dire que c'est un peu ça aussi, la fête de la famille des chefs, eh bien, planaient deux ombres de chers disparus, j'ai envie de dire, cette année. Le premier, c'est un ami à vous, c'est Sébastien Demorand, que je connaissais bien également, qui était lui aussi journaliste et chroniqueur
en gastronomie. Un homme libre lui aussi.
Et un homme qui goûtait bien.
Un homme qui avait un palais absolument, enfin, presque absolu, et pour le solide et pour le liquide. Mm-hmm. Et qui avait une plume formidable. Il écrivait moins ces dernières années. C'était pour moi triste.
Parce qu'il était passé à la restauration avec Le Bel Ordinaire. Oui.
Absolument. Mm-hmm. Et puis il faisait de la radio. Et puis il a animé longtemps, effectivement, cette belle scène. Omnivore au festival, recevant les chefs avec une empathie, une connaissance et une capacité à les accoucher sur scène, qui a toujours fait le ravissement à la fois du public et des chefs eux-mêmes. Donc c'est une des personnes que je cite dans mes remerciements,
Beaucoup influencé. Vous avez écrit des choses très belles sur lui, hein, sur sa disparition. Et pour citer Brassens, jamais au grand jamais son trou dans l'eau ne se refermera, puisqu'il laisse une place, il était unique, singulier, hein, dans ce monde de la gastronomie.
Tout à fait, par aussi ça. Son côté dandy, son côté grande gueule, mais en une fois beaucoup de générosité, beaucoup d'empathie. Donc il avait cette parole juste, équilibrée, qu'on aimait et qu'on regrette beaucoup déjà.
Bon, merci Stéphane de ce bel hommage à nouveau à Sébastien, hein, dont on embrasse la famille et les amis, hein, qui sont nombreux. Alors il y a un autre homme qui a disparu, et alors incroyable, il a disparu lundi dernier, le jour de cette annonce du nouveau guide 2020, un très grand chef alsacien, Émile Jung, qui était aussi un poète, un philosophe, un amoureux de la vie et de sa région. Et pour en parler, eh bien, j'ai un de vos confrères, Gilles Pudlowski, qu'on connaît bien. Bonjour Gilles, au téléphone.
Bonjour.
Alors Gilles, comme tous les jours, chaque fois qu'on vous appelle, de toute façon, vous êtes au restaurant, j'imagine, hein, puisque vous vivez dans les restaurants.
Là, j'étais en train de goûter à la cuisine libanaise.
Déjà.
Au restaurant Baïla à Genève, vous voyez. Je suis à Genève.
Il est dans mon livre, Gilles.
Les Libanais revisités. Ouais, très bon, d'ailleurs.
Alors,
je vous conseille.
Gilles, je vous ai demandé d'être avec nous deux minutes au téléphone pour évoquer la mémoire d'Émile Jung.
Je dois tout. Mon ami, mon professeur, mon oncle, ma conscience. Si je connais quelque chose à la gastronomie à Strasbourg, c'est en partie à Émile que je le dois. Si je connais les marchés, les maraîchers, les volaillers, il me parlait de surgure,
les produits quoi,
filerlés, voilà, les volailles avec la bouche, etc. Enfin les produits de bouche vraiment typiques enracinés dans le terroir alsacien, c'est vraiment lui qui m'a expliqué, lui qui était natif de Massevaux, qui avait conquis Strasbourg, qui avait eu les 3 étoiles au Crocodile, rue de l'Outre, qui les avait eu au temps où régnait sur le Michelin Belrane-Egelen, qui avait été un compatriote alsacien, d'ailleurs, qui avait été à l'école hôtelière avec
un Monique, promoteur de la cuisine alsacienne,
voilà,
du coup.
Les 3 étoiles qui ont été, je rappelle, enlevées par M. Derek Braun, de sinistre mémoire, directeur du Michelin pendant 4 ans, et au moment où il arrive chez Michelin, la chose qu'il fait, c'est enlever la 3e étoile à Émile Jung. Et les Jung ne sont vraiment jamais remis de cette 3e étoile, et j'adresse mes meilleurs sentiments à Monique, qui est là, qui pense à nous seulement quelque part, et de dire que en ce dimanche, je me dis qu'aujourd'hui, quelque part, une étoile veille sur nous, c'est celle d'Émile, qui est toujours là en train de nous expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas.
Oui.
Et parfois,
oui,
on ne comprend pas toujours ce qu'il raconte.
Oui, c'est
et
ça.
On lui demande de réexpliquer. Et ce qu'aimait Émile, c'était réexpliquer.
Parce qu'il parlait un peu poète, hein, un peu poésie,
totalement poète. Il parlait son langage à lui, qui était ni du français ni de l'alsacien, mais qui était du Émile Jung. Émile Jung, c'est quelqu'un qui était vraiment un savant de son métier, quelqu'un qui était capable de vous interrompre au milieu d'une conversation. Je me souviens de Jean-Luc Petit-Renaud qui avait tourné Les Contes savoureux d'Alsace, et au moment où la caméra partait, Émile prenait de la terre et commençait à parler de quelque chose qui n'avait strictement aucun rapport avec le sujet.
C'est comme ça qu'on l'aimait.
Tout le monde furax. Et en fait, on était enchantés au bout du compte parce que c'était le Philippe Catherine de la gastronomie, quoi.
Voilà, c'est un peu ça.
Formidable.
Vous avez raison. Toujours un petit peu à la marge, mais quel grand cuisinier. Merci Gilles Pudlowski d'avoir évoqué la mémoire d'Émile Jung, qui, on le rappelle, a fait un pied de nez extraordinaire au Michelin en reprenant avec lui au firmament ses 3 étoiles le jour de l'annonce du Michelin 2020. C'est une belle façon de sortir de la cuisine, monsieur Jung, et on vous embrasse.
C'est Molière qui me renseigne.
Voilà, exactement. Et on retrouvera Gilles Pudlowski à travers tous ses guides, et notamment le guide de l'Alsace et puis le guide de Paris. Enfin voilà. Merci Gilles, bonne journée à Genève.
À bientôt.
Mes amis, nous sommes de retour ici sur la terre des vivants, et c'est bon d'évoquer des gens comme Émile Jung, comme Sébastien de Morand qui nous manque aujourd'hui. Mais on va revenir à cette fête des étoiles, et le premier coup de fil Stéphane Méjanès, eh bien, c'est un ami, un très grand chef qui a une étoile rouge qu'il a obtenue l'année dernière à Paris au restaurant Table. C'est Bruno Verjus. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah écoutez, ça va très bien. On est en place pour un beau service à midi avec des produits extraordinaires.
J'espère bien.
Tous les légumes de tous les jardins de nos amis producteurs. Donc on est dans la joie.
Voilà Bruno. D'ailleurs, ce qui explique que vous ayez attrapé cette année une 2e étoile, mais qui est verte, qui n'est pas tout à fait l'étoile qu'on vous espérait, mais qui viendra. Hein. Alors cette étoile verte?
Alors, l'étoile verte, bah, écoutez, finalement, c'est assez intéressant parce que, vous savez, quand j'ai créé Table, enfin, quand j'ai eu l'idée de créer Table, il y a quoi, un peu plus de 7 ans et demi maintenant, j'ai presque écrit au frontispice de mon restaurant cette formule, cet aphorisme qui était de la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit. Et en fait, mon idée, et c'est d'ailleurs ce qui a procédé même à l'existence de TAP, c'était de dire il faut travailler évidemment les plus beaux produits du monde si on veut être capable d'offrir une belle cuisine. C'est un préalable qu'on a presque oublié, alors que c'est celui qui a finalement fondé la belle cuisine française.
Ouais.
Et donc, ça m'a toujours animé. Alors, de voir aujourd'hui une maison aussi vénérable et formidable que le Michelin dire on veut mettre en avant 50 chefs qui ont ces pratiques et ce rapport au monde et cette philosophie, parce que c'est important, c'est finalement merveilleux, parce que ben voilà, on est là, nous, tous les jours, pour semer des graines auprès de nos clients, puisqu'on les nourrit avec ces produits, mais on les nourrit essentiellement aussi avec des valeurs, avec une philosophie et avec cette expérience formidable autour des plus beaux produits. Et donc, ben voilà, on va être encore plus prosélyte de ça, aidé par la puissance Michelin. Donc, je trouve ça
merveilleux. On l'a bien compris, ce guide rouge, il est très vert, même s'il y a un guide vert, hein, mais c'est pas du tout la même chose. Il est très vert cette année, on s'en félicite. On va se quitter une seconde, on se retrouve tout de suite après une petite page de pub, hein, vous savez bien.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
De retour, place du marché. On n'a pas le temps de faire notre marché encore parce qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir quel est ce palmarès du Michelin cette année en compagnie de Stéphane Méjanès, qui est journaliste et chroniqueur. On peut citer Food Pâtisserie, L'Obs, bien sûr. Même si vous venez dans un passé lointain de l'équipe, mais c'est un sport d'équipe aussi, la cuisine.
Hein. Ah, il y a des parallèles très évidents à faire entre la cuisine et
le sport.
Le sport. J'ai écrit un peu là-dessus. Aussi.
Surtout que cette année, c'était les maisons. D'ailleurs, on accueillait sur scène pas seulement les chefs, mais aussi les directeurs, le directeur de salle, le
très
service.
Très bonne initiative du
Donc
Michelin,
c'était vraiment du sport d'équipe, hein, de Michelin. Absolument. Alors on était avec Bruno Verjus du restaurant Table à Paris en ligne pour son étoile verte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Stéphane Méjanès?
Je pense comme Bruno que c'est toujours bien qu'une grande maison comme le Michelin, qui est un porte-voix, qui a de l'influence, qui est prescripteur, s'empare de ce sujet qui est déjà sur la table, si j'ose dire, depuis un certain temps. Le Michelin est toujours un petit peu à la traîne, on peut le dire, mais c'est mieux vaut tard,
que jamais, comme
on dit, donc tant mieux. Après, le petit bémol moi, que je voudrais évoquer, c'est que la sélection est formidable, elles sont 50, pourquoi pas 51, pourquoi pas 49, il n'y a pas de label, vraiment, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de
questionnaire. Non, j'étais étonné de ne pas retrouver cette étoile dans le guide, par exemple.
Elle n'est pas dans le guide, on ne sait pas exactement comment ont été choisis ces chefs, enfin on le sait un petit peu, ils ont été reçus par le Michelin, il y a eu quelques inspecteurs qui sont passés, qui ont pendant 2 heures un peu ouvert les frigos,
qui
font d'habitude, quelques entretiens, même des réunions. De travail avec des chefs en région. Donc c'est très bien, il faut parler de tout ça, il faut en débattre. Non, je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, le client et le citoyen a envie de transparence. Je pense que le Michelin gagnerait à être beaucoup plus transparent sur comment sont choisis ces restaurants durables et qu'est-ce que ça veut dire d'être un restaurant durable.
Et oui, la question restera posée. Ça a le mérite au moins de mettre un petit coup de projecteur sur le durable.
Je ne veux pas faire le rabat-joie, mais attention à la crédibilité de
Bruno Verjus, votre grand maître et ami Alain Passard, je crois qu'il y a eu droit aussi, non?
Oui, absolument.
Hein
absolument.
C'est normal. Hein.
On ne s'est pas quitté toute la cérémonie. On était les deux pareils,
avec des écharpes, tous les deux.
Avec nos écharpes, absolument. Mais moi, j'avais une écharpe verte, j'étais déjà dans le thème.
Ah, bien vu. Bruno, on va vous laisser aller cuisiner. Quel produit? Allez, un ou deux poissons
Qu'est-ce que je vous fais à midi, là? Je vous fais un gros sol d'hiver, l'île Dieu, les sols
grillés en
pierre, tu vois, à la plaque.
Ouais.
Et on va faire un petit sabayon avec des algues fraîches.
Ah bah oui.
Des petites algues fraîches. On va mettre un peu de langue d'oursin, parce que j'ai des oursins vivants extraordinaires. Et puis je vais vous faire des petits brocolettis, parce que ça, ils ont déjà la puissance du printemps. Et puis il y a l'iode de la mer dans le brocoletti. Voilà, je vais vous faire.
Bon, bah gardez une table pour deux.
Une grande vague d'énergie saline.
Génial.
Dans le palais.
Merci, voilà, Bruno. Gardez une table pour deux pour Stéphane et moi. Mais on va dire à tous les chefs qu'on va entendre dans l'émission. Donc il y aura sûrement du no-show.
Merci. De dimanche. Je vous embrasse tous.
Je vous embrasse, Bruno.
Merci.
Et très belle cuisine. Stéphane Méjanès, il faut évoquer quelque chose, puisqu'on parle de ce palmarès du Michelin. C'est quand même, et ça a fait vraiment polémique, l'étoile perdue par le restaurant Paul Bocuse à Collonges au Mont d'Or, donc dans la banlieue de Lyon, on le sait bien. Enfin, tout le monde le sait, j'imagine, j'espère. Hein. En tout cas, Bocuse l'avait fait savoir. Et justement, j'ai en ligne un chef qui a sûrement un avis là-dessus. Et pas seulement, c'est David Tissot. David Tissot, c'est le chef de l'école de l'Institut Paul Bocuse à Écully. Et figurez-vous qu'il a eu une étoile cette année. Et cette étoile, elle a un goût particulier. Bonjour David Tissot.
Bonjour Vincent.
Comment ça va?
Très bien.
Ça va dans le coin de Lyon, même si Lyon est un petit peu oublié par le Michelin cette année, il faut le reconnaître. Mais pas pour vous, pas pour ce qui vous concerne, parce que qu'est-ce qu'elle a de spécial cette étoile? C'est la première étoile dans une catégorie qu'on ne cite pas souvent.
Je ne sais pas si c'est une catégorie. Mais pour moi, oui. Peut-être. En tout cas, nous, c'est un restaurant qui est ouvert tous les jours, midi et soir.
Mais c'est un restaurant d'application, c'est-à-dire le restaurant qui met à l'œuvre les élèves de l'Institut Paul Bocuse. Et ça, c'est incroyable d'avoir une étoile.
On a mis des choses en place. On a des professionnels qui sont là, qui viennent du milieu étoilé, qui sont là au quotidien, midi et soir, que ce soit en pâtisserie, en salle, de partout. L'idée là-dedans, c'était quand même, par rapport au restaurant saison, c'était de leur montrer l'exigence, de leur donner un but.
David, vous qui vivez sur la planète Bocuse, puisque l'Institut est relié à ce grand univers Bocuse autour de Lyon.
Et David est candidat français au Bocuse d'Or.
C'est ça, sélectionné pour la finale.
Janvier prochain.
C'est ça.
Il va être le... Vous avez raison de le rappeler. Donc il est vraiment... Il vit à 100% Bocuse, David. Comment vous avez vécu, vous, au milieu de vos équipes, au milieu de l'Institut, cette perte de la troisième étoile par le restaurant?
Moi, personnellement, je vais parler à mon titre personnel, puisque ça a été une de mes maisons au début de ma carrière, de la tristesse. Après, comme je dis, de toute façon, ils n'ont pas démérité, ils ont travaillé. Après, le jugement, ça, c'est pas à moi de le faire. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai passé des bons moments et je crois que je continuerai à passer des bons moments
dans cette maison-là. C'est pas de la langue de bois, mais c'est de la langue, c'est de la langue lyonnaise. Non, mais c'est normal, David.
Ça permet après que chaque cuisinier se remette en question et puis
aille
de l'avant.
C'est un mal pour un bien, alors, peut-être repartir au combat.
C'est ça.
Quel est votre sentiment, Stéphane Méjanès, sur ce sujet, brièvement?
Brièvement.
Oui, parce qu'on a beaucoup entendu. On se détermine face. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'on est révolté? Est-ce qu'on trouve ça normal? Est-ce qu'on est entre les deux?
Moi, je suis souvent entre les deux, si j'ose dire.
La voie du milieu.
J'allais pas dire du bon sens, mais non, je vais pas revendiquer ça. Mais le statut de Paul Bocuse est évidemment très particulier en France. C'est le pape de la gastronomie française. C'est lui qui a fait sortir les chefs des restaurants. C'est un statut à part, ce restaurant est à part, c'est un restaurant dans lequel on le va presque en pèlerinage, presque moins pour manger, si j'ose dire ça, c'est un peu sacrilège, mais que pour...
Un peu un conservatoire d'une certaine cuisine.
Oui, c'est une sorte de musée, ce qui est un peu dommage.
Mais on oublie, quand on reproche au Michelin d'avoir retiré la troisième, que c'est d'abord un restaurant, une entreprise commerciale qui n'est pas justement une institution publique. Ce n'est pas un musée, c'est pas un...
Non, c'est vrai. Moi, je pense que le retrait de la troisième étoile n'aura pas d'impact
sur
l'activité. C'est encore une fois un restaurant où les gens vont pas forcément pour les étoiles, mais pour toute autre chose, pour une certaine idée de la gastronomie française qui doit perdurer, qui doit exister. Moi, j'ai eu la chance de manger plusieurs fois à l'auberge de Collonges. On y mange très bien. On n'y mange pas une cuisine d'aujourd'hui, certes.
Ou du
futur, mais on y mange très bien. Il y a trois mofs en cuisine.
Ouais.
Le service est absolument fabuleux avec François Pipella, qui est un immense directeur de salle. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies pour passer un bon moment. Voilà.
Ouais. Et est-ce que vous ne pensez pas, moi je me dis même que ça va peut-être leur redonner un coup de projecteur, parce qu'il y a une sorte de solidarité autour du restaurant, il faut y aller maintenant, il faut les soutenir.
Non, puis ils sont très élégants, ils sont très classe, ils étaient tous là lundi pour la révélation, pour la cérémonie des étoiles, ils sont venus, ils n'ont pas fait le coup d'un autre chef... emblématique chapeauté,
le chat
qui s'est fâché et qui va se fâcher un an après.
À la clé, alors,
donc l'élégance de la maison Bocuse, c'est d'avoir accepté le verdict
et dire que la troisième étoile était au ciel avec Monsieur Bocuse.
Absolument, et que je pense qu'ils sont tout à fait en mesure de la reconquérir très vite.
C'est certain. En tout cas, ils repartent au combat comme David Tissot, qui va préparer cette année la finale du Bocuse d'Or. C'est un sacré challenge d'avoir à la fois un restaurant étoilé plein d'élèves et à la fois à préparer le concours. Vous n'allez pas chômer cette année, David?
Non, ce n'est pas dans mes habitudes. Pour moi, c'est important.
Meilleur ouvrier de France, je le rappelle également.
Aussi, ouais.
Et se donner des challenges. Voilà.
Merci en tout cas.
Et croire en ses rêves.
Voilà, si vous passez par Lyon, comme ça, au moins, faites le tour à Écully.
Ça s'appelle Saison, il faut le dire.
Ouais, saison. Saison, le restaurant d'application de l'Institut Paul Bocuse. Bah, c'est un peu aller chez Bocuse aussi, hein. Il faut bien le dire, hein, dans toute cette galaxie.
Il y a son empreinte.
Merci, David. Un bon dimanche
Merci
à vous.
Allez,
bonne journée. Mes amis, on va, avec Stéphane Méjanès, faire un peu le palmarès. On a parlé voilà, de différents sujets. Maintenant, il faut en venir au palmarès. On va parler des deux étoiles. Et parmi ces deux étoiles, il faut savoir que cette année, il y en avait quand même une flopée. Je crois qu'il y a eu 11 restaurants.
11 nouveaux double étoilés,
ce qui est pas mal. Hein, et 49, me semble-t-il, en matière d'une étoile, ou 59, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, une cinquantaine.
Oui, une cinquantaine.
Eh bien, parmi ces étoilés, il y a un garçon que j'aime beaucoup. Son restaurant s'appelle La Table Saint-Cressant. Elle se trouve à Narbonne, dans l'Aude, un peu une région de cœur, puis c'est pas très loin de chez Gilles Goujon, qui est un peu un maître dans l'Aude. Alors, allons fêter un petit peu Narbonne ensemble en l'écoutant juste après l'annonce des résultats.
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Quelle fête ce soir pour Narbonne, et puis j'irai, alors une petite partie de l'Occitanie qui est vraiment l'arc languedocien. Deux étoiles, est-ce que ça change tout par rapport à une étoile au Guide Michelin ?
Bah écoute Vincent, tu sais, je suis encore un peu abasourdi par la nouvelle, parce qu'on l'a appris, en arrivant sur le podium finalement.
Et ils n'ont pas appelé deux jours avant.
Non, cette année ils n'ont appelé personne, et du coup voilà, l'ascenseur émotionnel a été fort. Oui, c'est une très belle récompense pour l'ensemble des équipes, bien sûr pour ma femme, pour les gens qui sont derrière nous, pour les clients. Voilà, c'est une distinction qui a été très 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 attendue pour ma part depuis 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on a une étoile, 17 ans qu'on se bat pour aller chercher deux. Et puis voilà, puis je pense que l'année de la maturité fait que c'est la bonne période, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour nous, on refait la maison change. Voilà, on a repris une cave à côté, on se diversifie un petit peu aussi pour avoir une table un peu plus accessible. Donc c'est le bon moment, voilà.
Allez, tout le monde doit être fier dans l'Aude ce soir.
J'espère. On va fêter ça dignement.
On va fêter ça dignement, ça a été fait hein, depuis lundi dernier, je crois.
Ouais, on est très heureux pour Lionel Giraud, qui est vraiment un restaurateur emblématique, c'est de ces chefs qui sont dans le mouvement, qui se remettent en question, qui font des travaux. Il a fait des gros travaux pour réduire le nombre de couverts de la table gastronomique, mais pour ouvrir aussi un restaurant plus accessible. Donc voilà, c'est quelqu'un qui bouge. Il faut le dire, c'est une entreprise compliquée, un restaurant. C'est pas toujours très rentable, donc il faut être malin
et, puis, faut y aller,
dynamique, et il faut bosser.
Et puis on est très fiers aussi que l'Occitanie ait une deuxième étoile à Toulouse avec Pierre Lambinon, le restaurant Pierre. Là, en une seconde, pour dire, c'est une cuisine un petit peu déjantée. Hein. C'est un vrai improvisateur, un poète, quelqu'un qui fait, dit-on, jamais deux fois le même plat.
Alors sans doute, j'avoue.
Vous y avez jamais été ?
C'est d'une des tables qui manque à mon.
Eh ben alors, à mon
cursus.
Absolument.
Mais Pierre était très émouvant sur scène, vraiment sincèrement ému par cette récompense.
On le comprend hein, parce que c'est une belle chose qu'une deuxième étoile. Restez avec nous pour le palmarès. On se retrouve dans une minute.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente.
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
On est dans le Michelin ce matin, on est dans le palmarès pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se plonger dedans, et c'est un peu la grand-messe des chefs de la gastronomie française avec toute cette valse d'étoiles, cette voie lactée qui est au-dessus de nos têtes, et on est dans le palmarès des deux étoiles. On a eu tout à l'heure le témoignage de Lionel Giraud, la table Saint-Cressant à Narbonne, tout juste sorti de scène, qui venait d'apprendre qu'il avait deux étoiles. Vous avez senti l'émotion dans sa voix, c'était palpable, et on va immédiatement passer un petit coup de fil avec Stéphane Méjanès, qui est avec moi en studio. Stéphane, qui est, vous le savez, journaliste, chroniqueur gastronomique, une plume très libre, auteur d'un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Tailler une plume, croquons le critique gastronomique. Hein, ça, c'est
aux éditions de l'Épure, je le précise, qui est une très jolie petite maison d'édition.
Ouais, petite maison et pas chère.
Hein, c'est bien, qui fait des jolis bouquins. Objets.
Ouais, et surtout, le texte est vraiment brillant pour savoir quand on se pose action, c'est quoi un critique gastronomique. Là, je pense qu'on a une réponse assez assez composite, avec l'œil un peu rieur de Stéphane Méjanès, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Et on a passé un coup de fil à un autre chef qui vient d'obtenir pour sa maison, parce que je le rappelle, hein, les étoiles, c'est donné à un établissement, une maison. Alors, on met souvent le chef en avant, c'est normal. Mais aujourd'hui, ils étaient deux, enfin, lundi dernier, ils étaient deux sur scène. C'est David Bizet. Bonjour, David.
Bonjour, ça va bien ?
Oh bah ça va plutôt bien. Alors en deux mots, je vous resitue pour ceux qui nous écoutent. David Bizet, le chef du restaurant Taïwan, Taïwan, très grande maison parisienne, qui eut en son temps 3 étoiles au guide Michelin, qui avait redescendu l'escalier, il faut bien le dire. Passé de la famille Vrina aux frères Gardinier, pour ce qui est des propriétaires. Et vous travaillez en équipe avec Antoine Pétrus, double mof, sommelier et maître de salle, enfin en tout cas service en salle, ce qui est assez rare, il y en a 4 hein, des doubles mofs en France. David Bizet, vous-même, transfuge de l'hôtel Georges V, où vous aviez un restaurant étoilé, et là, venez d'attraper votre 2e étoile chez Taïwan. C'est glorieux pour Taïwan, qui retrouve un peu le devant de la scène, du coup, parisienne.
Oui, bien sûr, nous sommes très très heureux. Maintenant, Taïwan est une maison mythique, reconnue dans le monde entier, avec pour passer avec nos chefs.
Ah là là, qu'est-ce qu'il y a eu comme grand chef hein, chez ouais, Taïwan. Dites-nous quelques noms, ça fait rêver.
Bah bien sûr, beaucoup de respect pour messieurs Claude Delis, Philippe Legendre et Alain Soliverès, qui étaient oui. mes prédécesseurs.
Philippe Legendre qui a été aussi au Georges V. Hein, oui, tout ça, c'est le mercato des chefs, ça tourne dans Paris.
Tout à fait, tout à fait. Non, c'est une maison avec un lourd passé, avec des chefs puissants auparavant. Et puis aujourd'hui, bien sûr, nous sommes très très heureux de pouvoir accrocher cette 2e étoile et puis bien sûr continuer la croissance.
David Bizet, Claude Vrina avait installé cette maison emblématique. C'était un peu à l'époque de Terrail à la Tour d'Argent, c'est-à-dire ces grands restaurateurs qui savaient s'entourer de grands chefs. Qu'est-ce qui subsiste aujourd'hui de l'esprit Taïwan dans la maison et dans la cuisine ?
Vous savez, on a préservé le côté classique bourgeois dans la profondeur ouais. des goûts et dans la profondeur de l'assiette. Ce qui a forcément évolué, c'est la version contemporaine de l'expression, donc beaucoup plus frais et tout en gardant
allégé un petit peu, culinaire. Un petit peu allégé quand même.
Voilà, il faut garder ce savoir-faire et cette base, et tout en de manière à l'alléger et d'être beaucoup plus présent et plus contemporain. Dans
Stéphane Méjanès, comme toujours, les grandes maisons sont présentes, bien entendu. Moi, j'ai envie de citer les deux étoiles d'Aléno. Enfin, je veux dire, on a autour des grandes maisons 3 étoiles. Regardez, par exemple, cette étoile à la Tour Eiffel pour Frédéric Anton, le chef du Précatelan, 3 étoiles. C'est quand même la grand-messe d'une cuisine bien faite, d'une cuisine bourgeoise, même si elle est moderne.
Oui, d'ailleurs, avec le retrait de l'étoile de Paul Bocuse, beaucoup avaient dit ça va être l'occasion d'un coup de jeune.
Ça va être l'hécatombe.
Ça va être l'hécatombe et le Michelin va devenir le fooding. C'est pas le cas, on peut le dire, dans le palmarès de cette année en tout cas. Et c'est tant mieux parce qu'il faut cet équilibre. Et que je pense que le Michelin est aussi quand même le garant, le gardien d'un temple de la gastronomie française. Il évolue et c'est bien, mais on est très heureux de voir des maisons comme Taïwan. Je voudrais citer aussi Jean-Marie Anché. Il y a une culture du service au Taïwan. Antoine Pétrus est un immense professionnel. Et Jean-Marie Anché, qui l'a précédé, est un homme délicieux et très professionnel. Et David a relevé ce défi qui n'est vraiment pas facile. Hein. En un an et demi, hein, il est là depuis un an et demi. Donc de reconquérir une 2e étoile, c'est vraiment un très beau travail. Il faut citer, je pense aussi, peut-être son pâtissier qui s'appelle François Josse. Qui est très doué. Donc c'est aussi une équipe. Vous le disiez, le Michelin a choisi de faire monter sur scène cette année
des brigades,
le chef
en tout cas
et le directeur de salle. Voilà. Ouais. Donc Antoine était aux côtés de David pour
recevoir la
2e étoile. Oui, c'est très bien parce que en plus ça permet de voir plus de femmes puisque il y a beaucoup de femmes en salle. Il y a un peu moins de femmes lauréates encore cette année. Je crois qu'il y a 6 nouvelles.
On en parlera en fin d'émission. Hein, mais on fera un petit spot.
Donc voilà,
petit focus.
C'est bien qu'on montre que le restaurant, c'est un écosystème complet, une équipe. Et que
oui,
on
parce
ne
que
pas,
je le rappelle, souvent on dit un chef étoilé. Ce n'est pas le chef qui est à proprement parler étoilé. Pour le Michelin, c'est la maison qui est étoilée.
Oui, c'est comme l'assiette. Hein. Les critères du Michelin restent les 5 critères. D'évaluation qui sont toujours mis en avant concernent l'assiette, la cuisine. Donc c'est vrai que c'est un peu normal que le chef soit mis en avant. Le chef aujourd'hui en plus est beaucoup mis en avant.
Mais l'assiette
depuis
pour la servir quand même.
Mais voilà, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a longtemps eu des petites guéguerres entre la salle et la cuisine. Je pense que ça s'apaise aujourd'hui parce que tout le monde a bien compris que c'était un travail d'équipe et qu'en effet, une assiette mal présentée, mal racontée, mal servie, un accueil déplorable peut ruiner la plus belle des cuisines.
Alors David Bizet, comme tout grand chef, vous êtes évidemment soumis aux lois du marché. Je veux dire, vous faites la cuisine du marché, la cuisine des produits de saison. Pourtant, est-ce qu'il y a, vous pouvez me citer un ou deux plats qui resteraient emblématiques, qui sont toujours à la carte au Taïwan pour illustrer votre cuisine ?
Oui, bien sûr. En ce moment, on a qui est une cuisine avec un tartare d'algues qui est sur nos entrées, et bien sûr le poireau à la truffe en coupe de sel qui fait partie de nos plats
de signature. L'ADN de Taïwan, voilà.
Ouais, tout à fait, très joli riz de veau aussi, et ça ce sont des plats qui restent, je dirais, à l'année, quoi.
Génial, David, je vous laisse aller cuisiner, peut-être faire votre marché, puisque c'est dimanche matin, hein. Il y a beaucoup de chefs qui sont sur les marchés pour eux, hein, même quand la maison est fermée. Merci, bonne journée, on vous retrouvera avec plaisir sur Sud Radio. Bonne journée à vous. Alors qu'à l'instant, on a été rejoint, Stéphane Méjanès, par Morgan Abou. Bonjour Morgan. Ah, Morgan, il a pas, son micro ne marche pas encore. Réessayez ça.
Bonjour.
Ah ouais, c'est bien. Là, c'est bien. Vous
bonjour
êtes
Vincent.
Alors, Morgan Abou, qui est chroniqueur, tendanceur, Instagrammeur, il fait partie de cette jeune classe, hein, des chroniqueurs de la gastronomie. Vous passez votre temps dans les restaurants.
Ah, toujours, d'accord. Oui. Toujours en train de tester.
Et vous savez pourquoi je vous ai demandé de venir ? Parce que comme vous êtes plus jeune que vous et que vous êtes beau gosse, on va parler des femmes tout à l'heure, des femmes en cuisine, ça vous va ?
Avec grand plaisir, j'adore.
Super, super. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on passe un petit peu, voilà, on l'a dit, de nombreux restaurants ont attrapé 2 étoiles, mais on veut tout savoir sur les 3 étoiles, bien entendu. Et les 3 étoiles, eh bien, il y en avait 3 cette année, Stéphane Méjanès. Un en Charente-Maritime, à La Rochelle, et c'est une famille de restaurateurs qui est récompensée.
Christopher, en l'occurrence.
Christopher Coutenceau, le fils de Richard, qui avait 2 étoiles à son époque, dans les années 90, en tout cas. Il y a un autre qui est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là aussi, une grande maison qui revient au devant de la scène.
Oui, triplement étoilé à partir de 1954.
Ouais.
Qui les a perdus en 1990.
Lousteau de Beaumanière.
Lousteau de Beaumanière, au Beau-de-Provence, avec un très grand... patron, Monsieur Charial, Jean-André Charial.
Le petit-fils de Raymond Tuillier qui avait 3 étoiles à l'époque.
Et qui les a perdus en 90 et qui a rendu un hommage vraiment très touchant à son chef qu'il a choisi il y a 5 ans, qui s'appelle Glenn Vielle, qui est un type extraordinaire. Je pense que ça va être une des figures à venir, même si c'est un cadrat, il n'est pas... non plus si jeune.
Breton,
à 40 ans, on a 25 ans de carrière en cuisine.
Breton donc, adopté par la Provence.
Mais qui a pareil, un franc-parler, peut-être on va l'écouter.
On l'entendra tout à l'heure, dans quelques minutes.
On est très content pour
Et puis un troisième, un Parisien, mais venu de très loin. Je ne vous dis pas qui c'est, on le retrouvera tout de suite. Mais j'aimerais déjà qu'on entende Christopher Coutenceau. C'est très touchant, hein, quand on vient d'obtenir ces 3 étoiles. Vous étiez là, Morgan.
Oui, oui,
vous l'avez vu, que d'émotion dans cette grand-messe du Michelin. Au fond, c'est à ça que ça sert. Hein.
Bien sûr.
Le palmarès, on peut l'avoir dès le lendemain, mais de voir tout de suite la réaction des chefs. Regardez par exemple ce que dit, ou plutôt écoutez ce que dit Richard Coutenceau.
Fantastique et même voire incroyable. Comme je dis encore, hein, j'ai vraiment du mal à réaliser. Hein. C'est un rêve de gamin. Moi, j'ai connu papa avec 2 étoiles. Au fur et à mesure, mes pères aussi, que ce soit Michel Guérard et bien d'autres chez qui je suis passé et qui m'ont aussi donné cette motivation. Il y a 13 ans, on rachetait avec Nicolas, donc garder les 2 étoiles, hein, on en était là, faire évoluer la maison, et puis aujourd'hui, cette consécration, franchement, encore du mal à réaliser, je pense que demain, on va vraiment prendre conscience de ce qui nous arrive, mais ça reste un moment inoubliable, et je pense que tous les chefs, dans notre cas, sont à la même enseigne.
Qu'est-ce que ça signifie, au fond, recevoir 3 étoiles au Guide Michelin ? Est-ce que ça veut dire qu'on rentre dans une élite ? Est-ce qu'on est coopté par les autres 3 étoiles ? Est-ce qu'on vient te dire « tu es parmi les meilleurs chefs du monde » ?
On a toujours été proche de certains 3 étoiles. Hein. Arnaud, moi j'avais 17 ans, travaillé ensemble chez Guérard. Donc Christophe Baquet, qui avait fait un stage au Coutenceau et qui s'était marié avec une amie de la famille, Emmanuel Renaud aussi. Il m'appelait régulièrement pour me soutenir, pour me dire que j'étais dans le bon.
Il te challengeait, il disait « mais qu'est-ce que t'attends ? Allez, bouge-toi !»
Ouais, non, on se voyait de temps en temps. Hein. Il disait « non, mais ça va être ton année, faut y croire. » Tu sais, nous, ça a pris du temps aussi. Et c'est un vrai marathon. Et aujourd'hui, ils sont heureux pour moi et c'est aussi un petit peu grâce à eux. Hein.
Et tout le monde est heureux pour Christopher Coutenceau, qui en plus est un garçon remarquable, un grand chef pêcheur, hein, qui a toujours pêché tout le long de sa vie avec son grand-père et qui s'est engagé pour une pêche durable. Et ça, je pense que le Michelin y a été sensible également, hein, à ses combats.
Oui, ça fait, on parlait tout à l'heure de ce macaron vert. Il y a un vrai souci aujourd'hui. Un vrai engagement du Michelin, on peut le reconnaître. Sur cette durabilité de la cuisine.
Et puis Stéphane, on parlait juste avant d'entendre Christopher de Lousteau de Beaumanière et de son chef Glenn Viel. Alors, un Breton déplacé en Provence et qui fait des étoiles, qui pond des étoiles. On écoute tout de suite Glenn.
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
On a coutume de dire que les plus beaux jours de la vie, c'est là où on a un enfant en général, ou le jour de son mariage. Est-ce que les trois étoiles, c'est différent ou est-ce que ça s'inscrit dans la même idée ?
Non, évidemment, c'est différent. Un enfant, on a 9 mois pour l'attendre et se préparer, donc c'est complètement différent. Là, c'est quelque chose qui arrive inattendu, c'est sacrifice de sacrifice et en même temps beaucoup de joie, c'est mêlé de beaucoup de choses, la cuisine, et c'est 20 ans d'apprentissage pour arriver à là, quoi. Ça fait 20 ans que je travaille, ça fait 20 ans que j'apprends.
Ils vous ont appelé le Michelin quand vous dites c'est au dernier moment?
Non, pas du tout, je l'ai appris là. Hein, là.
Mais non, quoi, dans la salle?
Dans la salle, là, en direct. Vous pensez bien que sinon j'ai pas ce cri de fou qui sort de mon être comme ça. C'est un truc incroyable, c'est un électrochoc. Et puis c'est aussi, c'est une équipe entière, c'est une maison, c'est un patron, c'est une région, c'est tellement de choses qui font que c'est génial. Voilà, on est ravis de ça, c'est le Graal pour un cuisinier. Et voilà, on va continuer à travailler comme s'il y en avait une quatrième.
Il est carrément nature, Glenn Viel, et on aime ça, hein, de penser qu'il y a des chefs qui obtiennent la note suprême, je le rappelle, hein, c'est le Graal, hein, pour un chef, les trois étoiles.
On l'entend, c'est les champions olympiques. Il n'y a que le Michelin qui peut créer une telle émotion. On peut critiquer le Michelin sur ses choix, sur sa façon de faire.
Quand on est gradé, là, quand on devient général, c'est larmes, avec ses trois étoiles. Alors, Glenn Viel, et pourtant, il est nature, il est brut de décoffrage. Hein, il y a des chefs qui sont plus diplomates, on va dire, plus compassés, peut-être. Lui, c'est un trois étoiles nature, et on aime ça. Allez, on se quitte une minute, et on revient pour la suite du palmarès du Guide Michelin.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, venez en voiture jeunesse pour le palmarès du Michelin. Si vous avez arrêté le début de l'émission, pour les réécouter en podcast, hein, si ça vous intéresse. Beaucoup d'émotions ici parce que j'étais à la sortie de scène, hein, de ce Michelin. On les a entendus, les chefs 3 étoiles, Christopher Coutenceau, on les a entendus, les Glenn Viel. Et c'est pas fini parce que je vous ai pas annoncé le troisième, Stéphane Méjanès. Une grosse surprise, hein, pour ce troisième 3 étoiles.
Alors. Surprise, enfin, peut-être.
Une surprise pour le spécialiste. Voilà. Hein,
moi, quand on me demandait, comme toujours, les gens m'appellent bien avant pour me dire
alors. Vous en pensez ?
Franchement, c'est le seul.
C'est le seul que j'ai
eu bon. Je savais qu'il y en avait 3. Et Kay revenait dans toutes les conversations.
Alors, donc, vous venez de le citer. Morgan Abou, qui était avec nous. Oui. Vous, qui êtes un spécialiste des cuisines du monde, vous avez dû être content.
On l'attendait avec impatience, parce qu'enfin, un chef japonais qui a la troisième étoile. C'est vraiment, ça s'inscrit dans le renouveau.
En France.
C'est un peu un renouveau de Michelin. C'est bien, on a besoin de ces cuisines du monde qui arrivent au top.
Alors, vous êtes tendanceur et foodisto. J'ai dit foodisto, donc on dit toujours foodista. Je trouve que c'est plus masculin. Vous êtes un foodisto. Et donc, vous, ça vous a surpris ou pas cette arrivée de Kei Kobayashi, dont le restaurant porte le nom, hein, c'est le restaurant éponyme, restaurant Kei.
On disait cuisine du monde, mais qui fait une cuisine quand même très française.
Justement, il faut le dire.
Justement, n'attendez pas à manger des sushis. Oui.
Ah non, puis il n'y a pas que le sushi dans la cuisine japonaise.
En plus.
Stéphane, hein, soyons pas trop chauvins quand même. Non, c'est vrai qu'il fait une cuisine, on va dire, nippo-française avec des produits d'ici quand même.
Exactement, c'est vraiment française avec des inspirations. C'est vrai qu'on pensait qu'en fait les chefs étrangers n'auraient pas cet accès au Graal. L'année dernière avec Mauro, ça a été la première
Mauro
fois.
Mauro Colagreco, je le rappelle, hein, qui est argentin et français.
Exactement, et donc on espérait pour Kay.
Donc bravo. Est-ce que c'est un message du Michelin pour dire nous sommes internationaux?
Non, c'est parce que encore une fois, Kay fait une cuisine plutôt française, donc c'est un message du Michelin pour dire on aime les bons restaurants.
Ouais.
Et puis ça sanctionne, effectivement, il y a énormément de chefs japonais aujourd'hui dans les cuisines des restaurants qui font une cuisine française, matinée évidemment, inspirée par leur culture, mais ils viennent en France pour faire la cuisine française. Kay fait un pitivier extraordinaire, donc ils sont fascinés par cette grande cuisine française qu'ils modernisent, qu'ils emmènent un peu vers leurs univers, mais ça sanctionne cette émergence des chefs japonais. Il y a eu des deux étoiles aussi.
Ah non, mais attendez, en dehors des Français, le plus grand nombre d'étoilés à Paris, c'est des Japonais, hein, sont des chefs japonais. Il faut le rappeler quand même, ça a son importance. Et puis, vous qui êtes auteur de Tailler une plume, croquons le critique gastronomique, là, aux éditions de l'Épure, vous êtes un spécialiste de la critique gastronomique, justement, en un mot, qu'est-ce qui permet de donner 3 étoiles ? Quelle va être la différence avec 2 étoiles, vous qui quand même côtoyez cet univers ?
Si vous le savez, dites-le-moi, Vincent.
Ouais. Non, c'est subjectif, ça veut dire ?
Mais évidemment, enfin, moi je pense que toute critique est subjective, même si le Michelin avance des critères d'évaluation très précis. Mm-hmm. Il y en a 5 hein, qui sont toujours rappelés, qui sont la maîtrise des cuissons et des saveurs, la qualité des produits, le rapport qualité-prix, la personnalité du chef, sa créativité. Et je pense un des plus importants, la constance, la régularité.
Vous êtes d'accord avec ça, Morgan ?
Donc ça, ce sont les critères. Mais à l'intérieur de ça, pardon Morgan, la subjectivité reste forte.
Vous êtes un Instagrammeur, vous êtes au restaurant pratiquement tous les jours, vous faites à peu près le même métier que Stéphane Magennès, c'est les médias qui changent en définitive. Vous êtes un journaliste du numérique en quelque sorte.
Voilà, peut-être pas encore journaliste, mais disons que effectivement j'ai mon avis sur les tables, et c'est vrai que ce qui est intéressant quand le classement des Michelin arrive, c'est qu'on est à peu près tous comme au foot, pronostiqueurs en fait. Tout le monde devient inspecteur du guide Michelin, et surtout en fait c'est mon avis qui...
Et vous croisez vos avis avec celui du guide comme font tous les journalistes gastronomiques. Exactement. Et les critiques gastronomiques.
Il faut être humble, hein, on se trompe beaucoup en tous les cas, on n'est pas toujours en accord avec le Michelin, et c'est pas grave.
Et vous avez raison de dire qu'il y a un jeu des pronostics, et même chez les Français. Alors justement, moi il y a une tendance que j'espérais beaucoup plus forte cette année, Morgan, c'est la présence des femmes. Oui. Parce que moi je l'entends souvent de dire, mais quand même, hein, vous faites pas beaucoup de place aux femmes dans les cuisines, il n'y a pas beaucoup de chefs de ZFE, S, hein, s'il y en a plusieurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Eh oui, je pense qu'il y a un historique à rattraper. Sur 628 étoiles, il y a 27 chefs, donc femmes, en 2019, 33 en 2020, donc on a gagné 6 femmes. La note d'espoir, c'est qu'en fait... on a 5% de chefs, mais finalement, ça représente 10% des nouveaux étoilés. Donc si on, c'est quand même une bonne tendance, on va dire.
Oui, c'est une bonne tendance, de toute façon, mais ça ne peut que progresser.
Il y a du travail de rattrapage.
Il y a une dynamique, effectivement.
Voilà, il y a une dynamique.
Mais on part de loin.
Exactement.
D'ailleurs, j'aurais peut-être dû inviter une femme hein, pour en parler plutôt que vous, Morgan. Mais enfin, bon, c'est pas grave, parce que vous êtes œcuménique. Alors, Morgan, j'ai vu sur Instagram cette semaine, je rappelle, votre page, c'est Morgan Abou, hein, j'ai vu que vous aviez été chez une chef, dès le lendemain d'ailleurs de l'annonce du Michelin, une nouvelle étoilée à Paris,
oui.
Mais qui vient de loin, qui vient de l'océan Indien.
Exactement, donc Kelly Rangama, donc pour le FAAM, qui vient de décrocher l'étoile, et donc première table d'inspiration réunionnaise.
Mange du curry alors.
elle introduit donc le massalé dans la cuisine française. Là encore, on est donc dans une cuisine française avec des inspirations de
l'océan Indien.
Voilà,
oui,
exactement.
Oui.
On va retrouver. Elle introduit par exemple le taro, donc cette racine comme de la patate douce. Donc le massalé.
Massalé, c'est un curry. C'est un mélange d'épices. Hein,
exactement,
on peut dire,
un mélange d'épices. Le palmiste, donc le palmier.
Ah, le chou palmiste.
Voilà.
Ah, oui.
Le géranium rosa, enfin plein de choses pour venir un peu égayer.
Géranium, c'est le géranium odorant, celui qu'on trouve dans les jardins du sud. Oui, ça ressemble à de la rose un peu poivrée.
Voilà.
Ah, génial. Il y a
très tendance aussi dans pas mal de restaurants.
Vous avez goûté, Stéphane, Kelly Rangama ?
Non, pour être très franc, je n'ai pas encore l'occasion. Elle a ouvert
très
peu de temps. Elle a été récompensée rapidement, donc ça fait aussi une belle performance. On peut rappeler qu'elle avait participé... à Masterchef,
Top Chef,
en 2017. Pardon, des professionnels.
Et souvent, ça révèle
les
talents.
Elle a fait un très joli discours, très intelligent, très pertinent. Et voilà, cette nouvelle génération
Nous, on est
de chefs,
hein.
Hommes et femmes, mais c'est bien aussi.
Oui, puis des jeunes femmes qui attrapent l'étoile, c'est prometteur et ça fait rêver quelque part. Alors, on parlait des émissions de télé qui révèlent les jeunes femmes. Il y en a une autre à Lyon qui est passée par une émission de télé, justement.
Exactement.
C'est Tabata.
Eh oui, Tabata May, donc Tabata et Ludovic May qui ont le... Comment dirais-je ?
L'apothicaire,
exactement.
Les apothicaires, pardon.
Exactement. Donc là, on a une cuisine qui vient de Copenhague, d'Amérique du Sud. Elle est brésilienne.
Parce qu'il est scandinave, lui. Il est danois, lui. C'est
voilà,
ça ?
Voilà, exactement. Elle est brésilienne. Elle a été se former au Noma, donc vraiment...
Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous ne savez peut-être pas ce que c'est que le Noma, mais il a eu plusieurs fois le prix du meilleur restaurant du monde sur certains classements, on va dire. Donc, en tout cas, une cuisine tout à fait extraterrestre, on va dire différente de ce qui se fait ailleurs, avec un traitement du produit incroyable.
Un esprit de cuisine, c'est... On peut reproduire, en tout cas essayer de s'inspirer de la cuisine de Noma sans faire la cuisine de Noma, mais juste avec un esprit. Il y a eu un dogme à une époque où, avec des préceptes pour faire la cuisine comme chez Noma.
On va dire qu'il y a eu l'air El Bouli,
absolument,
hein, et puis il y a eu l'air Norma, juste derrière, dans un
grand
style
inspirateur.
Différent.
Moi, je pense que je vous prédis que en mai prochain, pour ce classement dont vous parliez, je ne sais pas si on peut dire son nom.
Bon, vous pouvez.
Le 50 Best. Je pense qu'il est très bien placé pour reconquérir la première place.
Ouais, parce qu'il est, il était redescendu, mais il a remonté.
Ouais. Il avait fermé, voilà.
Ouais. Du coup, Morgan, on peut dire autre chose sur ce couple, couple de cuisiniers, c'est qu'ils ont ouvert un lieu incroyable à Lyon, alors qui n'est pas étoilé, mais qui fait figure d'OVNI aussi dans cette planète du street food.
Exactement. Donc, le Food Traboul, qui est au sein de la Tour Rose, un food court avec 12 restaurants différents. Ça vient juste d'ouvrir, en fait, donc c'est vraiment leur mois à ce couple. Et donc, on a de la cuisine bistronomique, des plats partagés, de la cuisine bouchon lyonnais, enfin, une pizzeria, des viandes maturées. À chaque fois, on peut vraiment tout trouver. Il y en a pour tous les goûts. Vraiment, bravo.
Très beau lieu. J'ai eu la chance d'être à la soirée d'inauguration. Mmh. C'est un endroit magique dans le Vieux-Lyon, au pied de Fourvière. Et effectivement, il y a toute cette offre. Ils ont fédéré autour d'eux tout un tas de chefs lyonnais qui ont accepté de prendre un corner, de s'engager avec
eux. Ben, on ira.
C'est un couple formidable.
J'irai avec mes micros de Sud Radio.
Il faut y aller.
Et vous savez quoi, ça me fait penser qu'il y a encore des étoiles à gagner pour la street food. Il n'y a pas encore de restaurant de street food qui ait attrapé l'étoile. Comme ça, c'est
France.
Un challenge pour pour le Michelin. Ah oui, c'est vrai qu'en Asie, ça existe déjà.
Ouais, c'est pas très culturel, la street food en France. Hein, quand même.
Non,
on aime bien s'asseoir à table.
Ah,
passer 3 heures pour manger.
Oui, mais avec le réchauffement climatique, vous allez voir.
Non, mais je suis d'accord.
Merci Stéphane Méjanès. Je rappelle votre livre « Taillez une plume, croquons le critique gastronomique ». Ça vous aidera à comprendre un peu mieux l'esprit du critique gastronomique, parce que ça reste un mystère pour la plupart d'entre nous. Merci Morgan d'être venu nous parler des femmes en cuisine.
Vincent.
Et on vous suit sur votre page Morgan Abou sur Instagram.
Avec deux B.
De toute façon, quand on tape Morgan Ab, tout le reste suit. Si vous n'avez pas entendu le palmarès et les chefs, vous le retrouvez évidemment en podcast sur sudradio.fr. C'est ici que ça se passe. Et merci d'être venu faire votre marché avec nous. On était dans les étoiles et dimanche prochain à 10h, on redescend sur Terre pour faire ensemble le marché, le vrai. Hein, ce coup-ci, vous connaissez l'adresse, c'est Place du Marché et c'est sur Sud Radio. Bon dimanche et bonne semaine à tous.
Sud Radio, Place du Marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.